Le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. La solidarité avec l'Ukraine sur fond de campagne électorale. L'Assemblée débat de la stratégie française d'aide à l'Ukraine avant un vote non contraignant sur l'accord bilatéral de sécurité signé par Paris et Kiev. Sophie Delpont suit ce débat pour France Culture. Le Parlement européen approuve en première lecture la circulation des méga-camions à travers l'Union européenne. Pourquoi ce vote préoccupe-t-il les élus français? Nous le verrons avec Angélique Boin. L'autorité parentale des parents violents sera désormais plus facilement retirée en France. La proposition de loi portée par la députée socialiste Isabelle Santiago est définitivement adoptée. Nous y reviendrons avec Cécile de Kervas-Doué. Et puis avec Anne Fauquemberg, nous nous intéresserons à l'enquête ouverte après les attaques informatiques ayant visé plusieurs ministères depuis dimanche. C'est l'un des principaux thèmes de la campagne des européennes. Le soutien de la France à l'Ukraine est soumis cet après-midi au vote des députés. La majorité présidentielle qui accuse le Rassemblement national et la France insoumise de complaisance vis-à-vis de la Russie veut les pousser dans leur retranchement. Le RN a fait savoir qu'il s'abstiendrait et LFI prévoit de voter contre l'accord bilatéral de sécurité entre Paris et Kiev, tout comme les élus communistes. Les socialistes et les républicains devraient, eux, soutenir le texte. Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
Vous suivez depuis 16h30. Le débat à l'Assemblée, quelle en est la tonalité, Sophie?
Un débat très solennel, c'est le ton du discours de Gabriel Attal, le chef du gouvernement dans l'hémicycle.
Mesdames et messieurs les députés, si nous avons tenu à ce que ce débat et ce vote puissent se tenir aujourd'hui, c'est parce que nous sommes à un moment de bascule dans ce conflit. La Russie est une menace, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi directement pour nous, pour l'Europe, pour la France, pour le peuple français. Et la première ligne de défense, c'est en Ukraine qu'elle se situe. Le reste, ce sont des mots. Les mots légers de ceux qui ne veulent pas voir leurs responsabilités et croient que les choses rentreront dans l'ordre toutes seules, sans effort. Les mots coupables de ceux qu'aveuglent des affinités anciennes avec une Russie agressive et régressive. Avec vous, je veux rendre hommage au peuple ukrainien et à sa résistance exceptionnelle depuis plus de 2 ans contre l'agresseur russe. Elle nous oblige.
Le Premier ministre applaudit à plusieurs reprises. C'est ensuite le président du groupe socialiste Boris Vallaud qui prend la parole immédiatement après et s'engage à voter pour ce texte, tout en précisant que l'accord ne signifie pas l'envoi de troupes en Ukraine. Cyrielle Chatelain, présidente du groupe écologiste, apporte elle aussi son soutien au texte.
Nous soutenons l'Ukraine, son peuple et son armée. Nous soutenons le combat ukrainien pour préserver son intégrité territoriale. Par conséquent, nous soutenons l'envoi d'armes, d'équipements et de munitions.
Le député communiste Fabien Roussel, en revanche, votera contre.
Ne tuez pas une deuxième fois Jean Jaurès. Et comme lui, nous appelons le gouvernement à se ressaisir. Voilà pourquoi nous nous prononçons à l'unanimité de notre groupe contre cet accord qui nous engage pour 10 ans avec des objectifs imprécis et dans des termes flous.
Le Rassemblement national a déjà annoncé qu'il s'abstiendrait. Il devrait s'exprimer d'ici quelques minutes dans l'hémicycle.
Sophie Delpont, des combattants russes pro-Ukraine ont de nouveau attaqué des zones frontalières en Russie aujourd'hui. Ces volontaires russes opposés au Kremlin affirment avoir pris le contrôle d'un village dans la région de Koursk, ce que Moscou dément. La situation est à vrai dire assez confuse. Et au même moment, à quelques jours de l'élection présidentielle qui doit voir Vladimir Poutine réélu pour 6 ans, l'Ukraine multiplie les attaques de drones sur le territoire russe. Sylvain Tronchet.
L'unité combattante qui affirme avoir pris le contrôle du village russe de Tetkino est la même que celle qui avait déjà effectué une incursion en territoire russe en mai dernier dans la région de Belgorod. Cette fois-ci, c'est dans le secteur de Koursk que ces soldats semblent s'être introduits. Ils ont publié sur les réseaux sociaux une vidéo où l'on voit un blindé russe visé et endommagé. D'autres vidéos publiées par des habitants témoignent d'échanges de tirs dans le secteur, mais difficile de savoir ce qui s'y est produit précisément. Les autorités russes, elles, démentent toute incursion et affirment avoir repoussé l'ennemi. Cette attaque arrive néanmoins dans un contexte tendu. L'Ukraine semble avoir lancé des dizaines de drones sur le territoire russe ces dernières 24 heures. À Belgorod, l'un s'est écrasé sur la mairie, l'autre sur un centre commercial, sans faire de blessés apparemment. La nuit dernière, c'est une raffinerie située à plus de 400 km à l'est de Moscou qui a été touchée. D'après l'agence Reuters, les dégâts seraient importants. La raffinerie privée de la moitié de sa capacité de production. Dans la région de Koursk, les autorités ont décidé de fermer les écoles. Les cours se dérouleront à distance.
Merci. Sylvain Tronchet, correspondant de France Culture en Russie. L'armée israélienne mène de nouvelles frappes dans l'est du Liban, ripostant à des centaines de tirs de roquettes revendiqués par le Hezbollah. Les menaces d'une guerre ouverte entre Israël et le mouvement islamiste libanais allié du Hamas s'accentuent. Et l'espoir d'une trêve dans la bande de Gaza s'éloigne. D'après le Qatar, pays médiateur, nous ne sommes pas près d'un accord. Le Hamas réclame d'abord un cessez-le-feu définitif et un retrait des troupes israéliennes de Gaza. De son côté, Israël exige notamment une liste précise des otages encore vivants. Pas de trêve, cela veut dire toujours plus d'urgence humanitaire. Alors l'Union européenne a décidé de mettre en place une voie maritime pour fournir de l'aide à l'enclave palestinienne. Depuis le début du blocus de Gaza par Israël en 2007, aucun bateau n'est pourtant autorisé à accoster. Bonsoir Thibault Lefebvre.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
Correspondant de France Culture à Jérusalem, la surveillance a encore été renforcée depuis le début de la guerre, il y a 5 mois, mais ce matin, un navire espagnol a quitté Chypre avec à bord des vivres pour la population palestinienne et le bateau, Thibault, est en route pour Gaza.
8h18, très exactement ce matin, l'Open Arms quitte sous les applaudissements le port de Larnaca, c'est au sud de Chypre. Le bateau tracte une barge avec 200 tonnes d'aide alimentaire direction Gaza, près de 400 km au sud. Dans des conditions normales de navigation, la traversée devrait durer une dizaine d'heures. Mais l'Open Arms est le premier bateau à entrer dans les eaux territoriales de l'enclave depuis la mise en place du blocus maritime israélien en 2007. Évidemment, les contraintes logistiques sont conséquentes et imprévisibles. Laura Lanouza est la porte-parole de l'ONG Proactiva qui affrète l'Open Arms.
Le bateau va arriver dans 1 ou 2 jours. On ne peut pas vraiment prévoir et donner plus de détails. C'est une question de sécurité. Il ne faut pas oublier qu'Israël a approuvé ce corridor humanitaire depuis Chypre en décembre 2023. Il y a encore 3 semaines, emprunter ce corridor semblait pratiquement impossible. Il y avait 1 chance sur 1000 pour qu'on y arrive. On a travaillé très dur ces dernières semaines et finalement, on a réussi. L'Open Arms a pu embarquer 200 tonnes de nourriture avec notre partenaire World Central Kitchen.
200 toneladas de comida con World Central Kitchen.
200 tonnes d'aide alimentaire, l'équivalent d'une dizaine de camions, de quoi fournir 500 000 repas, un repas par personne aux habitants restés au nord de Gaza. La cargaison devrait être déchargée sur une jetée temporaire installée depuis 48 heures par les équipes de World Central Kitchen. C'est l'autre ONG impliquée dans l'opération.
L'opération qui est en cours, Thibault, ça n'est pas sûr qu'elle réussisse, hein.
Oui, c'est ce que dit en effet le fondateur de World Central Kitchen, José Andrés, dans un message sur le réseau X. L'opération peut échouer, mais le plus grave serait de ne pas essayer, car l'Open Arms est le premier bateau à emprunter ce corridor. Il ouvre la voie, c'est une sorte de ballon d'essai, un signe d'espoir, selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. L'Europe finance une partie du convoi dans le cadre de son mécanisme de protection civile. Les Émirats arabes unis sont aussi engagés dans l'opération. La grande interrogation concerne l'acheminement de l'aide une fois à terre, puis sa distribution. World Central Kitchen dit faire confiance à des partenaires locaux sans plus de détails, alors qu'il n'y a plus d'autorité sur place et que le spectre d'une nouvelle bousculade mortelle réprimée dans le sang par les Israéliens plane sur l'opération. Entre 300 000 et 500 000 personnes manquent de tout dans le nord de Gaza. Et selon le ministère palestinien de la Santé, 25 personnes, pour la plupart des enfants, sont mortes ces derniers jours de malnutrition et de déshydratation.
Merci Thibault Lefebvre, vous étiez en direct de Jérusalem. À Strasbourg, les eurodéputés veulent simplifier la circulation des méga-camions de 60 tonnes et longs de 25 mètres à travers l'Europe. Malgré l'opposition des Verts et de nombreux eurodéputés français de tous bords, le Parlement européen a voté en faveur de la directive qui revoit le poids et la longueur des poids lourds en Europe. Précision d'Angélique Bouin.
Oui, avec 330 voix pour et 207 contre, mais cela n'autorise pas pour autant la circulation de ces camions géants sur nos routes françaises. Il n'en a jamais été question. Le texte mis au vote prévoit de simplifier la circulation de ces mastodontes entre les pays voisins qui les autorisent déjà. Aujourd'hui, il faut un accord préalable. La France les interdit sur son territoire. À ce jour, elle n'est donc pas concernée. Alors pourquoi ce vote inquiétait-il autant les élus français, et les Verts en particulier ? Eh bien parce qu'il ouvre une brèche en laissant librement ces camions circuler entre les pays qui les autorisent, la pression pourrait à terme être très forte sur la France, pays central. Ces méga-camions circulent déjà au nord, Suède, Finlande, pour transporter du bois. La Belgique veut s'y mettre, ainsi que les Espagnols au sud qui l'expérimentent. Et dans les pays de l'Est, on redoute que le développement annoncé pour des raisons écologiques du fret ferroviaire n'affaiblisse le secteur routier qui emploie beaucoup de camionneurs. La France, prise en tenaille, tiendra-t-elle longtemps ? Voilà le cœur du débat. À noter que ce vote est une première lecture, on y reviendra sous la prochaine mandature.
L'autorité parentale ne doit pas passer avant la protection des victimes. C'est le sens de la proposition de loi de la députée socialiste Isabelle Santiago qui, après un ultime vote du Sénat, vient d'arriver au terme de son parcours parlementaire. Bonsoir Cécile de Carvaz-Doué.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
La principale mesure adoptée permet le retrait automatique de l'autorité parentale en cas de condamnation du parent pour un crime commis sur son enfant ou sur l'autre parent.
En cas de poursuite même, c'est même avant la condamnation, parce que jusqu'ici ça n'était pas le cas et c'était une des demandes répétées de la Civise, la commission contre l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Dans les cas les plus graves, c'est-à-dire lorsqu'un enfant est violé ou agressé sexuellement, ou lorsqu'il assiste à la mort ou au viol de sa mère, et que l'agresseur est le père, et bien celui-ci, ce dernier, le père donc, se voit automatiquement retirer ses droits parentaux. Cette loi instaure donc un changement de paradigme, puisque dès le début donc des poursuites, avant même la mise en examen, et jusqu'à la décision du tribunal, la justice sera dorénavant obligée de protéger l'enfant plutôt que la famille. De quoi réjouir l'autrice de cette loi, la députée PS du Val-de-Marne, Isabelle Santiago.
Pendant très longtemps, le cercle familial, ce qui s'y passait, c'était un déni en fait. La société ne s'en occupait pas à titre personnel. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est terminé. On dit non, on protège les enfants. Il n'est pas possible de continuer à avoir des enfants qui fréquentent leur agresseur, même quand c'est leurs parents. Ça correspond aussi à une demande qui était forte de la part de parents protecteurs face à des situations d'inceste et autres et qui se voient obligés de présenter leurs enfants. L'ONU a d'ailleurs déclaré que la France, là-dessus, devait bouger. Donc en fait, ce texte sépare de l'agresseur cet enfant qui était souvent remis auprès de l'agresseur, soit pour des vacances, soit pour des visites médiatisées. C'est très important et si ça peut protéger même qu'un seul enfant, j'en suis ravie.
Et pour y parvenir, la députée a dû renoncer à une partie de son texte qui voulait retirer l'autorité du parent qui agressait l'autre parent, le rendant inapte au travail pendant 8 jours. Une idée retoquée l'année dernière au Sénat qui a cette fois voté le retrait automatique de l'autorité parentale dans les cas les plus graves, à l'unanimité.
Cécile de Carvaz-Doué. Après les attaques informatiques ayant visé plusieurs ministères depuis dimanche, la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris a ouvert une enquête. Elle porte sur l'infraction d'entrave à un système automatisé de données commises en bande organisée. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
Ces attaques ont été menées par déni de service, une méthode qui consiste à faire tomber en panne un service en le submergeant de requêtes. Différents groupes de hackers les ont revendiqués et parmi eux le groupe Anonymous Soudan.
Oui, Anonymous Soudan est apparu il y a un peu plus d'un an. Ses membres se sont d'abord présentés comme des soutiens à plusieurs causes islamistes. Mais aujourd'hui, ils se sont alignés sur des groupes pro-russes et ils soutiennent principalement Moscou, explique Loïc Guézo. Il est le vice-président du CLUSIF, une association française de professionnels de la cybersécurité. Il explique les possibles motivations de ce groupe.
Si on parle spécifiquement, par exemple, des opérations qui peuvent être menées par des groupes alignés sur les intérêts russes, le fait de montrer que les services de l'État ont des difficultés à assurer une continuité de leurs services informatiques contribue à miner la confiance qu'ont par exemple les Français dans leur gouvernement et dans les services publics. Donc tout ça apporte de l'eau au moulin à certains pays qui ne sont pas des alliés de la France.
Et ces attaques par déni de service, qui consistent donc à faire tomber en panne un service informatique en le submergeant de requêtes, vont s'intensifier avec l'actualité de ces prochains mois.
Ces attaques sont faciles à remettre en répétition sur d'autres cibles avec des débits encore plus puissants dans les semaines qui arrivent en prévision notamment des Jeux Olympiques ou même des élections européennes et des gros événements pour lesquels obtenir de la visibilité en empêchant un site institutionnel de fonctionner est effectivement un gain recherché par les attaquants.
Et pour Loïc Guézo, même si ce type d'attaque ne constitue pas des destructions ou des vols de données, il faut y prêter une grande attention car elles peuvent aussi servir de diversion pour attaquer des services informatiques plus en profondeur.
Anne Fauquemberg, 13 personnes ont été interpellées aujourd'hui à Paris, à Lyon ou encore en Savoie dans le cadre d'une enquête ouverte pour reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous. Il s'agit d'anciens membres du groupe d'extrême droite Génération Identitaire, groupe dissous en mars 2021 par décret en Conseil des ministres, après avoir ciblé l'islam, des migrants ainsi que le navire ambulance Ocean Viking. Bonsoir Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous.
Comment analyser ces arrestations ?
Eh bien, qu'elles pourraient signifier qu'il y a eu véritablement reconstitution. Nous avons posé la question à Daphné Deschamps, journaliste indépendante spécialiste de l'extrême droite.
Est-ce qu'il y a une reconstitution de Ligue dissoute ? À mes yeux, oui, totalement. Que ce soit avec des organisations comme Argos, où il y a plusieurs membres d'Argos donc, qui sont concernés. Donc Argos, qui est donc le nouveau nom de Génération Identitaire dans beaucoup d'endroits, mais avec des groupuscules aussi plus locaux, comme les Natifs à Paris, les Normaux à Rouen, par exemple.
À cette cartographie mouvante, changeante, il faut ajouter l'ASLA, l'association de soutien aux lanceurs d'alerte, décryptage Daphné Deschamps.
Une association qui s'occupe de récolter des fonds pour payer notamment les frais d'avocat de pas mal de militants identitaires dans le cadre de leurs différents déboires avec la justice, que ce soit pour des questions de diffamation, pour des organisations de manifestations interdites, ce genre de choses.
Nous ne laisserons aucun groupe dissous se reconstituer, se félicite ce soir le ministre de l'Intérieur. Et si c'était peine perdue ?
Des organisations comme les nations identitaires qui ont des fonds, des comptes en banque, qui achètent du matériel, qui diffusent du matériel, qui vendent du matériel parfois, ça peut leur mettre un petit coup d'arrêt. Mais ça les empêche pas du tout de se reconstituer et ça arrête pas du tout la diffusion des idées.
On a eu une accélération, une multiplication des procédures contre la mouvance identitaire qui s'apparente à une persécution politique. Ainsi a réagi l'avocat Pierre-Vincent Lambert, Aurélie, qui se présente comme, je cite, le conseil d'une partie des mises en cause.
Mathieu Laurent, l'accord négocié hier soir sur l'autonomie de la Corse doit être désormais soumis aux parlementaires qui valideront ou non la révision constitutionnelle nécessaire à son application. Cet accord prévoit d'inscrire dans la Constitution la notion de communauté linguistique et culturelle concernant les Corses. Il prévoit également d'octroyer aux institutions corses de pouvoir d'adapter les lois et les normes de la République française aux spécificités locales. Ce pouvoir d'adaptation serait très encadré et délimité par une loi organique à venir. Mais en Corse, les lois et les normes ne seraient donc plus tout à fait les mêmes que celles en vigueur sur le reste du territoire national. Pour le professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris-Panthéon-Assas, Benjamin Morel, cet accord s'attaque au fondement même des principes républicains.
Ah, c'est une vraie rupture. Hein. C'est une vraie rupture à deux endroits. D'abord, le premier endroit, c'est qu'on conscientise vraiment la notion de communauté culturelle linguistique. Or, il faut voir que la seule communauté qui est reconnue dans la Constitution, c'est la communauté nationale, donc une communauté de citoyens sans considération d'appartenance culturelle, d'appartenance linguistique ou religieuse. Donc là, on revient réellement là-dessus avec un effet potentiellement de boîte de Pandore. Parce que demain, si jamais d'autres communautés demandent une reconnaissance, on sera obligé de la leur accorder. Donc là, on entre dans une logique communautariste au sein de la Constitution qui est une vraie rupture, qui n'avait jamais été envisagée jusqu'à présent. L'autre élément, c'est que évidemment, on rompt avec l'unité de la loi. Et ça aussi, c'est une rupture. L'égalité devant la loi et l'égalité qui passe par l'unité du législateur est considéré depuis la nuit du 4 août 1789 comme une condition fondamentale de la liberté et de l'égalité. Sinon, c'est une forme d'ouverture à une possible inégalité et potentiellement à une forme de tyrannie, d'où, entre guillemets, ce principe qui est un principe de base fondamental depuis 1789. Et donc ça aussi, on revient dessus.
Benjamin Morel répondait à Stéphane Robert. Elle avait 98 ans. La journaliste et écrivaine Madeleine Chapsal s'est éteinte la nuit dernière au Pouléguin en Loire-Atlantique. Romancière prolifique, elle avait écrit une centaine de livres, romans, récits, essais, théâtre ou poésie. Bonsoir Aurore Richard.
Bonsoir.
Madeleine Chapsal était notamment connue pour son ouvrage « L'homme de ma vie » paru en 2004.
Madeleine Chapsal, c'est d'abord une carrière de critique littéraire à l'Express, un magazine lancé en 1953 par son mari Jean-Jacques Servan-Schreiber. Elle y réalise des entretiens marquants avec Louis-Ferdinand Céline, François Sagan ou encore Claude Lévi-Strauss. La journaliste reste à l'Express jusqu'au début des années 70 avant d'être évincée. Cela marque le début de sa deuxième carrière. Madeleine Chapsal devient écrivaine. L'un de ses livres les plus connus, c'est « L'homme de ma vie » qui revient sur son histoire d'amour avec Jean-Jacques Servan-Schreiber. Elle est également l'auteur de « La maison de Jade » vendue à 700 000 exemplaires. Ce que nous connaissons moins de Madeleine Chapsal, ce sont ses origines. Elle est la fille de Marcel Chaumont, une couturière de renom, et elle en parlait sur notre antenne en janvier 2011 dans la fabrique de l'histoire avec Emmanuel Laurentin. Dès l'âge de 3 ans, elle passe son temps dans la maison de haute couture Vionnet.
Et c'était une merveille que d'entrer dans cet immeuble parfumé où tout était dans une discipline, le sourire perpétuel. Enfin, c'était une sorte de paradis de la femme. Et les plus belles femmes de Paris, les plus élégantes, les plus riches, ils venaient presque tous les jours, aussi bien pour voir la collection qui passait tous les après-midi à 15h, que pour essayer, commander, faire changer une robe, etc.
Et son père lui est conseiller de la Cour des comptes et elle est aussi la petite fille de l'ancien ministre Fernand Chapsal.
Aurore Richard, la météo, demain des Pyrénées aux Alpes, le temps sera ensoleillé dès le matin. Ailleurs, la grisaille dominera d'abord avant de laisser place à des éclaircies. Les températures minimales seront généralement comprises entre 4 et 10 degrés. Les maximales seront bien douces pour la saison, 13 à 17 sur la moitié nord, 17 à 21 au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.